je te donne mon cœur. Et c'est un choix volontaire. Je ne suis pas dans une contrainte particulière. Et elle vous l'a dit, c'est une démarche de foi, une démarche d'adhésion. Je suis disciple de Jésus. Je suis disciple de Jésus. J'aimerais faire un parcours avec vous ce matin. Un parcours pour expliquer pourquoi nous croyons que Jésus, Fils de Dieu, a donné sa vie pour nous. Et que nous le recevons en nouveauté de vie pour faire un chemin sur cette terre des hommes avec lui, mais bien aussi après dans l'éternité. Vas-y s'il te plaît. L'évangile, c'est un terme peut-être que vous avez déjà rencontré, entendu parler. L'évangile avec grand E rassemble les quatre évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Et les apôtres, notamment celui qui est connu comme celui qui a été le guide, le représentant des apôtres, celui qui les a conduits, Pierre, l'apôtre Pierre, dans une de ses prédications, dans ce contexte du premier siècle, a situé à ses auditeurs ce qu'on entendait par évangile. Je vous invite à lire Actes chapitre 10, les versets 34 au verset 48. Nous aurons quelques lectures ce matin, non seulement pour nous introduire, pour ceux qui peut-être n'ont pas cette culture dans les textes bibliques, mais pour nous aussi, pour nous rappeler que le centre de notre vie de chrétien, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est un récit qui s'articule autour de l'engagement à cette mission que Jésus avait dite à ses apôtres, que je vous ai lu dans Matthieu chapitre 28. Et les actes des apôtres racontent comment ses disciples ont déployé cette mission, comment ils l'ont vécu, comment ils ont eu des actions sur le territoire d'abord d'Israël, donc de Israël actuel, et puis ensuite au-delà. Et c'est un des épisodes où l'apôtre Pierre rencontre quelqu'un qui n'est pas juif, qui du reste est un officier romain qui s'appelle Corneille. Et c'est cet échange avec Corneille qui va donner lieu à cette prédication de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre du moins. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point assertion de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, et nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jusque-là, la parole de Dieu. Que pouvons-nous retenir de cette prédication de l'apôtre Pierre, qui est l'une des prédications qui marque l'annonce de la bonne nouvelle? Quelques éléments que nous pouvons retenir. Vas-y, Sarah. Les prophéties sont accomplies et une nouvelle ère est inaugurée par la venue de Jésus. Quand on étudie l'Ancien Testament, il y a au moins 300 prophéties qui annoncent. Le mot prophétie donne l'idée que dans la préscience de Dieu, Dieu a donné à quelques hommes de dire des paroles qui n'étaient pas juste actuelles dans leur contexte historique, mais qui dépassaient ce cadre aussi et qui s'appliqueraient dans les temps à venir. 300 prophéties au moins. Et ces prophéties disaient qu'il serait un descendant du roi David. Et c'est le cas, puisque deux évangélistes, quand vous lisez les évangiles, nous disent ce qu'on appelle la généalogie de Jésus. Et dans cette généalogie, ces ascendants, dans les ascendants de Jésus, on voit bien que le roi David est situé en bonne partie de cette généalogie. Il est mort selon les Écritures, puisque l'un des prophètes majeurs qui a parlé de cet avènement du Messie, Ésaïe a attesté dans son chapitre 45 jusqu'au chapitre 51-52, ce que ce Messie, qui allait venir 6 siècles après lui, allait vivre de façon concrète. Il avait annoncé que ce Messie-là serait mis à mort. Il est mort selon les Écritures pour nous délivrer du présent siècle mauvais. Sa mort était une mort sacrificielle, une mort rédemptrice. Parce que par cette mort-là, Dieu renouvelait son alliance avec les hommes. C'est vrai que notre siècle, 21e siècle, avec tout ce que nous avons connu comme horreur, avec ce que nous connaissons maintenant comme paix, avec notre mentalité changée, le thème sacrifice humain nous fait quelquefois sursauter. Mais c'est pour cela que et les prophètes et Jésus rassurent que c'est le dernier sacrifice. Il n'y en a plus d'autre. C'est le sacrifice ultime. Le sacrifice d'une vie pour l'humanité. Il a été enseveli, il est bel et bien mort parce que c'était un homme. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Les Écritures annonçaient qu'il ressusciterait 3 jours après. Parce que dans l'historiographie juive, on sait ce que ce symbole de 3 jours représente. On a Jonas. Si vous lisez le livre de Jonas dans l'Ancien Testament, lui aussi, il avait été mandaté pour une mission. Il s'est refusé de cette mission-là et il a eu un épisode tragique qui a duré 3 jours. Mais 3 jours après cet épisode, il a été remis en scène pour continuer sa mission. Et donc ce symbole de 3 est un symbole important. Et Jésus ressuscite donc le 3e jour. Et en plus, ce 3e jour coïncide avec le lendemain du sabbat, un jour nouveau, une ère nouvelle. Il est exalté à la droite de Dieu le Père, en tant que Fils de Dieu et Seigneur des vivants et des morts. Le Christ est un homme parfaitement comme nous. Le Christ est Dieu parfaitement comme Dieu. Et donc, dans sa résurrection, dans sa vie, il atteste à chaque fois avec des témoignages assez forts qu'il était un homme. Quand après sa résurrection, il est apparu aux apôtres et que Thomas n'était pas là, Thomas a dit aux autres, écoutez, c'est bien cette histoire de Jésus ressuscité. Moi, je ne suis pas sûr. Je vous crois, hein, les amis, mais franchement, ça me laisse un peu dubitatif. Si je ne le vois pas de mes yeux, si je ne mets pas mon doigt dans les trous où il a été cloué, je vous avoue que j'aurais un peu une gêne de croire qu'il est vraiment ressuscité. Et la parole de Dieu est éloquente parce que Christ refait une apparition et on a le sentiment qu'il a refait que pour Thomas. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Il s'intéresse à chacun de nous individuellement et il revient pour Thomas. Et lorsque Thomas rentre dans cette salle et qu'il voit le Christ, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Christ lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il ne lui disait pas de croire en rien. Il lui disait « Mais tes compagnons t'ont témoigné que j'étais ressuscité et tu n'as pas cru quand même. » Alors que ceux-là, c'était tes compagnons pendant 3 ans. Ils m'ont connu comme toi, ils ont marché comme toi. Et si tu n'as pas cru à ce témoignage, c'est un peu dommage pour toi, Thomas. Mais Jésus l'a renouvelé. Il ne l'a pas juste blâmé, il l'a renouvelé. Christ est ressuscité, Christ est Dieu. Il siège auprès de Dieu. On dit oui, d'accord, vous les chrétiens, vous dites ça, mais franchement, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Un grand écrivain français a dit, on ne perd rien si on croit en Dieu. Il dit, par contre, on perd tout si on ne croit pas. Et il s'est expliqué. Il dit, si on croit en Dieu et qu'on meurt et qu'il existe, bah, quelle chance, quelle grâce. Il dit, par contre, si on ne croit pas et qu'on meure et qu'il existe vraiment. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que nous avons une seule vie sur terre, et l'après, c'est l'éternité. Et Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Ça veut dire qu'il règne ici pendant que nous sommes vivants, mais il règne aussi quand nous serons partis de l'autre côté. Jésus reviendra comme juge et sauveur des hommes. L'un des textes qui vous a été lu par Whitney, Jean 3, il commence au verset 16. Et il dit, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Dieu. Et cette vie éternelle, elle commence aujourd'hui, pas demain. Elle commence aujourd'hui, pas demain. Elle commence aujourd'hui, pas demain. Vas-y, s'il te plaît. Le baptême. Le baptême est cette deuxième condition. Pas qu'elle soit une condition qui apporte quelque chose à notre salut. Non, elle est une condition qui dit notre salut. Parce que justement, celui qui a rencontré Dieu a laissé Dieu tourner son cœur vers lui. Dieu a fait cette œuvre de changement qui commence à poindre dans sa vie. Alors cette personne obéit, comme Whitney l'a fait, comme vous allez le constater tout à l'heure, en passant par les eaux du baptême. Vas-y, s'il te plaît. C'est ce texte que je vous ai lu en introduction du baptême. Matthieu 28, 16 à 20. Trois choses étaient nécessaires dans ce cadre-là. D'abord, il avait envoyé les disciples pour aller par toutes les nations. Le salut n'est pas réservé à une peuplade, à une population, à une nation, à une ethnie particulière. Non, le salut est ouvert à tous les peuples de la terre. Peu importe la couleur de peau, peu importe la condition sociale, peu importe la localisation géographique, le salut est ouvert. Le salut est ouvert à tous. Puis, les apôtres étaient invités à faire cette cérémonie que nous faisons aujourd'hui pour permettre à ceux qui ont cru d'obéir à cette invitation de Jésus à passer par les eaux du baptême. Et dans une troisième étape, celui qui croit est invité à continuer de découvrir Dieu dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude de la Bible, dans l'enseignement des instructions, des recommandations, des commandements que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Quand on parle de commandements dans la parole de Dieu, certains disent « Oula, vous êtes encore à cette époque des commandements ?» Je veux rappeler quand même que dans une société, nous avons des commandements. Nous avons une loi fondamentale qui s'appelle la Constitution, c'est un commandement. Celui qui enfreint cette Constitution est passible d'une peine, parce que ces règles-là, elles sont établies pour notre société, pour que la société vive bien et en harmonie. Dieu fait pareil avec ses commandements. Ce sont des règles qu'il nous donne pour que dans son royaume, ceux qui marchent avec lui sachent comment marcher, en bien, bien sûr. En bien, bien sûr. Le baptême, donc, est cette deuxième étape-là. Cette pratique, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, symbolisait deux choses au moins. Premièrement, celui qui se fait baptiser, il exprime son adhésion, n'est-ce pas? Il s'identifie publiquement au Christ, à Jésus-Christ et à son message. Il croit. Le fait d'être immergé dans cette eau, comme Whitney va l'être tout à l'heure, puis d'en être retiré, représente cette décision volontaire de ne plus laisser ma vie, ta vie, être omnibulée par le mal, parce que nous sommes tous, malheureusement, et c'est la mauvaise nouvelle, nous sommes tous plus orientés vers le mal que vers le bien. J'étais dans une réunion il n'y a pas longtemps et une dame que je respecte à cause de son métier a dit « Moi, je crois que l'homme est fondamentalement bon. » Et moi, j'ai hoché un peu de la tête. On n'était pas tout à fait d'accord. La Bible dit que nous sommes nés bons, mais ça, comme le dit cette publicité, c'était avant. Depuis, malheureusement, la chute originelle, nous sommes tous un peu tordus à la naissance. Nous sommes un peu tordus à la naissance. Quelquefois, pour m'en convaincre, je regarde mes petits enfants à la maison et je me dis, si petit et pourtant, parfois espiègle, parfois Et quand je me souviens de mon enfance, de moi-même mon enfant, je vois que voilà, j'avais des jeux qui étaient plutôt bien, mais il y en a quelques-uns où les parents disaient, oula, déjà à cet âge-là, tu fais ça. On n'était pas conscient de ces actions-là parce que nous étions petits, mais ça montre déjà ce que nous sommes quand nous naissons. Notre espérance, c'est que Dieu est capable de nous transformer en bien. Notre reconnaissance dans notre civilisation humaine, c'est que Dieu préserve malgré tout le bien dans l'être humain. Malgré tout, il préserve le bien dans l'être humain. Quand nous voyons le bien se manifester, bah c'est une grâce de Dieu. Sinon, nous devions plutôt être une société de chaos total, d'anarchie, une jungle sans nom. Et pourtant, Dieu préserve son humanité de cette jungle-là, en préservant le bien dans le monde, bien-aimé. Le baptisé s'identifie à une nouvelle communauté. Cette communauté n'est pas juste une église locale comme celle du Créteil. Elle est plus grande que celle-là parce que l'église, elle est universelle, elle est partout, elle est dans tous les territoires, elle est dans tous les peuplades, elle est partout l'église. Et je peux témoigner que c'est vrai, dans cette petite expérience de voyage que j'ai été toujours surpris dans mes voyages de rencontrer d'autres chrétiens en Corée du Sud et de voir qu'on avait, en tout cas sur des aspects assez doctrinaux, la même vision et qu'on était mobilisés, motivés pour les mêmes valeurs humaines et humanistes. En Afrique, pareil. Aux États-Unis récemment, pareil. Dans les îles où je suis allé aussi, notamment à l'île Maurice, pareil. Et je me suis convaincu que c'est vrai. Que nous sommes une communauté nouvelle. Et cette communauté, elle est plus grande que notre petite localité. Et donc, le baptisé s'identifie et le rentre de façon plus officielle dans cette grande communauté humaine qui s'appelle l'Église, le peuple de Dieu. Ce peuple qui a pour mission d'aimer et de vivre l'amour. Les principes de foi. Être disciple, c'est suivre l'enseignement de Jésus. C'est la troisième recommandation, n'est-ce pas ? Aller partout. Annoncez la bonne nouvelle, baptisez-les et enseignez-les tout ce que je vous ai appris. Cette troisième étape, elle est cette étape de la maturation de la foi. Nous avons cette conviction que notre foi n'est pas, comme on nous le fait croire quelquefois, nous ne sommes pas des bénis, oui, nous ne sommes pas des moutons de panurge. Non, nous sommes des êtres intelligents. Sauf qu'à un moment donné, Dieu nous a rencontrés et nous avons fait un acte d'intelligence en reconnaissant que mine de rien... On croyait qu'on était sur le bon chemin, mais en réalité, il nous manquait quelque chose. Il nous manquait quelqu'un. Dieu dans notre équation. Et Dieu est rentré dans notre équation et ça donne de belles solutions. Ça donne de beaux résultats. Mais Whitney l'a dit, et c'est l'expérience de tous les chrétiens, c'est pas pour autant que notre vie est sans épreuves, sans difficultés. Non, nous sommes des humains. Et nous rencontrons aussi des épreuves. Par contre, dans ces épreuves-là, dans ces difficultés-là, nous avons un nouveau allié, un nouvel allié. Nous avons une nouvelle ressource. Nous avons une nouvelle perspective. Nous avons le Seigneur avec nous. Et c'est ça qui change l'équation. Dans l'Épître aux Colossiens, écrit par l'apôtre Paul au chapitre 2, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi » d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. On a cette invitation, n'est-ce pas, que quand nous rencontrons le Seigneur, que nous sommes sur ce chemin, c'est une invitation à la sagesse. Ce n'est pas une invitation à l'idiotie, parce que quelquefois on nous prend pour des idiots, nous les chrétiens. On dit, oulala, dans ce siècle moderne, 21e siècle, il y a des gens encore comme vous qui est à l'âge de la caverne. Ce n'est pas vrai du tout. Nous ne sommes pas dans les grottes. Nous sommes aussi intelligents que vous. Nous sommes aussi raisonnables que vous, sauf que Dieu est rentré dans notre équation. Et nous avons reconnu qui c'est à juste titre que nous voulons marcher avec lui. Et donc, cette marche est une nouvelle sagesse. Une sagesse, certes, qui prend dans le monde ce qu'il y a de bon, mais qui s'appuie sur la parole de Dieu pour ce que Dieu continue de dire bon, même quand les hommes disent que c'est mal. Même quand les hommes disent que c'est mal. Même quand les hommes disent que c'est mal. Et c'est là toute la différence. Nos valeurs sont forgées dans la parole de Dieu, la Bible. C'est elle qui nous guide dans ce chemin des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les vivions. Le chrétien est invité donc à s'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour justement avancer dans ce changement de vie. Grâce à Dieu, après avoir été sous l'esclavage du péché et du mal, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine qui vous a été transmise. C'est ça, laissez Dieu nous transformer. Les vertus typiques d'une nouvelle façon de vivre sont présentées. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, nous parle de ce que le chrétien appelle les fruits de l'esprit. Toutes ces vertus, il y en a 9, que le nouveau croyant est invité à cultiver, à développer dans sa vie. L'amour, la joie, la paix, la convivialité, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Il est invité parce que désormais il en a les ressources. Ces ressources lui sont données par cette relation avec Dieu. Il est invité aussi à avoir de bonnes relations au sein de la communauté chrétienne. Hein? Et cette invitation est une invitation à être quelqu'un d'aimable, de bienveillant. Le chrétien est enseigné à avoir de bonnes relations aussi envers ses voisins qui ne connaissent pas Dieu. Avec ses voisins ou ses connaissances qui ne partagent pas la même foi avec lui. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de fatwa, c'est-à-dire que nous ne croyons pas que celui qui n'est pas comme nous mérite notre mépris. Non, au contraire. Parce que nous étions aussi de cet ordre-là. Et nous avons eu la grâce peut-être de rencontrer le Seigneur Jésus. Et nous ne méprisons pas nos amis ni nos voisins qui n'ont pas fait cette même démarche avec nous. Nous sommes au contraire invités à les aimer encore plus quand nous devenons chrétiens. Cependant, nous avons des valeurs nouvelles, des orientations nouvelles qui peuvent ne pas être partagées. Heureusement que nous sommes dans un pays où on a cette liberté de conscience, où on peut être ensemble même si on ne partage pas les mêmes valeurs, sans toutefois sortir la kalachnikov ou le couteau. Et nous sommes encouragés, nous les chrétiens, à ne pas le faire. Nous sommes encouragés plutôt à aimer l'autre, même quand il y a une différence de croyance. Un ensemble de comportements, comme je l'ai dit, envers ceux qui n'ont pas la même foi que nous. Les relations juste vis-à-vis des autorités sont définies. Nous sommes invités à être des artisans de paix au cœur de notre société. Et non pas des artisans de guerre. Et enfin, nous avons un appel à la vigilance, à la responsabilité. Nous sommes invités à la sobriété, à la veille, à être des gens modérés dans notre façon de vivre tous les jours, des gens sobres. Et nous sommes invités à demeurer fermes sur cet enseignement que nous recevons du Seigneur. Voilà quelques indications. Et pour terminer, il est important de rappeler ces choses lorsque nous nous réunissons en culte. Un renouvellement de l'intelligence, une orientation renouvelée de notre façon de voir le monde. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, « Je vous invite donc, dit l'apôtre Paul, frère, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Elle l'a dit tout à l'heure, Whitney, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes sur ce chemin de la perfection. C'est un défi. Nous voulons être parfaits, dans le sens où nous voulons être jour après jour des hommes et des femmes de bien. C'est ça que nous voulons être. Et ce chemin est tout ouvert avec le Christ dans notre barque. Voilà quelques indications. Nous donner entièrement, ne pas nous conformer, avoir une vision renouvelée. Voilà, tu peux passer sur cette slide-là, la vie de disciple. En conclusion, Whitney l'a fait, quelques-uns d'entre nous l'ont fait. Si vous êtes là, nous vous invitons juste à le faire. Après, la décision vous appartient, n'est-ce pas? De demander à Dieu d'opérer une transformation durable dans notre cœur. Cette transformation engendrera des désirs dans cette maturation vers le bien, n'est-ce pas? Et quelques questionnements. Quelles convictions nouvelles avez-vous développées? Quelles sont les transformations que Dieu peut opérer dans votre vie? Y a-t-il des points que vous auriez aimé développer davantage? Qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé? Qu'est-ce qui vous a plus convaincu? Qu'est-ce qui vous a plus stimulé? À quoi votre discernement de la vie a-t-elle été modifiée? Nous sommes dans une démarche d'adhésion, pas dans une secte où on croit bêtement, sans réfléchir à ce quoi on croit. Non, nous avons cette grâce que le Dieu dont nous parlons fait œuvre de dialogue avec nous. Jésus est toujours en dialogue avec ses auditeurs. Il n'est pas celui qui oblige ses auditeurs à le suivre, mais c'est celui qui leur demande de réfléchir sur sa proposition. Il dit, je vous fais une proposition, prenez le temps d'y réfléchir. Certes, vous avez du temps, mais en même temps, vous ne l'avez pas. Je ne vous mets pas de pression, mais il dit, réfléchissez. Et Jésus est patient, n'est-ce pas? Réfléchissez parce que son programme de vie, c'est celui-là que je vous invite à lire avec moi. Romains chapitre 12, versets 10 à 21. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà le programme de vie que Jésus propose à ceux qui veulent entendre. Réfléchir, méditer sur sa proposition. Et c'est pour cela que nous sommes aussi là ce matin. Parce que cette proposition-là, Whitney a pris le temps d'y réfléchir. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a pris du temps. Elle a eu toutes les expériences dont on vous a parlé. Et ensuite, elle a maturé sa décision. Elle en a été convaincue. Elle a été accompagnée, instruite dans les Écritures. Et aujourd'hui, nous sommes là avec elle. Pour que justement cette décision puisse avoir une réalité concrète. Je vais donc inviter Whitney maintenant à me rejoindre. Je vais juste enlever ma veste, on va se diriger vers le baptistère. Nous sommes à cette étape. Ça va aller. Tout à l'heure. Nous sommes à cette étape où nous allons redire avec Whitney ce que nous croyons. Whitney, crois-tu et as-tu confiance en Dieu, Créateur des cieux et de la terre, et le Père Tout-Puissant qui est amour, et qui veut pour toi la vie, et qui pour te sauver a envoyé son Fils unique Jésus-Christ?
Oui, je le crois.
Crois-tu et as-tu confiance en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Dieu véritable et homme véritable qui a été crucifié et qui est ressuscité le troisième jour, et en qui nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle?
Oui, je le crois.
Crois-tu enfin que l'Esprit de Dieu te donne la confiance et que cet Esprit atteste en toi l'amour de Dieu, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et que cet Esprit veut te conduire, t'éclairer, te permettre de servir avec ton cœur dans le bien et te garder en communion non seulement avec l'Église, mais aussi avec la société? Le crois-tu?
Oui, je le crois.